けど、そこに行って花がやりたいな、ちょっと突然このドンバーガイスって世界で、alors est-ce que nous n'aurions pas une illustration merveilleuse par la lumière la quarta via plus et moins lumière et donc au niveau sens existe, d'essayer de la contempler. Je crois que si l'intelligence est vivante, c'est ce qu'elle fait spontanément. Il y a un appétit de vérité en tout. Donc, il est normal que nous posions la question. C'est là où, d'un point de vue critique, nous devons préciser que l'intelligence n'a pas pour cette réalité une connaissance directe. Elle ne touche pas immédiatement Dieu dans sa nature. Elle pose qu'il existe. Et en posant qu'il existe, l'intelligence touche son existence. Elle atteint son existence. C'est pas simplement une dénomination extrinsèque qui fait que l'intelligence dit oui, il doit exister un être premier, je resterai dans leur hypothèse. C'est pas une hypothèse, c'est une affirmation catégorique, très nette. Et une affirmation qui nécessite l'intelligence, qui l'oblige, si elle veut être fidèle à la recherche de la vérité, de dire cette réalité première existe. Et cette réalité première, par rapport à toutes les autres réalités, joue un rôle capital, puisque si elle est première, elle ne peut pas être en puissance. Donc elle ne peut être qu'en acte. Et elle ne peut être que d'un ordre spirituel. Donc, il n'y a plus de distance entre les deux. Les distances sont d'ordre physique. Les distances sont d'ordre de la quantité. C'est la quantité qui est l'extériorité. Il ne peut pas y avoir d'extériorité entre cette réalité première et nous-mêmes. L'extériorité provient de la quantité et de la matière. Ça, je peux tout de suite le découvrir. Ce qui fait que ce toucher de l'intelligence en affirmant qu'il existe est quelque chose de très grand. Pas simplement un jugement d'existence qui se réalise comme lorsque je touche une réalité extérieure à moi en disant qu'elle existe. C'est un toucher intérieur de l'intelligence par rapport à une réalité qui, tout en étant au-delà de nous, nous transcendant et nous dépassant complètement, est quand même une réalité qui n'est pas extérieure à moi. Ceci, je peux préciser progressivement. Et je le préciserai surtout lorsque j'ai essayé de comprendre les rapports qui existent entre cet être premier et moi-même existant. Le problème de la création, selon les traditions religieuses. Et à ce moment-là, je comprendrai que je suis j'analyse une vérité complexe. Pas analyser le mystère de Dieu. Puisque être premier n'implique pas de potentialité. Donc il n'implique aucune divisibilité. Il est. C'est par là que progressivement on a précisé cette manière particulière de m'approcher de Dieu et ce type de connaissance en disant c'est de lui qui donne cela. Je crois que c'est très juste. Quand il s'agit de la connaissance de Dieu, il s'agit toujours d'une connaissance analogique, c'est-à-dire d'une connaissance qui n'est pas si immédiate, qui est toujours par le mode de la causalité et de la causalité finale. Je suis donc suspendu à Dieu dans la mesure même où je le découvre. Parfois donc de causalité. Je le découvre comme une source, comme un premier. Je découvre ensuite qu'il n'est pas toute la réalité que je vois et que je peux analyser et que je peux constater. Le père Modo négationnisme. Et puis enfin, je découvre que, étant donné qu'il est premier, toutes les perfections que je découvre en moi, elles existent en Dieu d'une manière imminente, transcendante, première. Le père Modo éminentiel. Ce sont trois affirmations qui m'aident à préciser ce que représente ce type de connaissance contemplative que j'ai de Dieu. Et j'insiste beaucoup, connaissance contemplative que j'ai de Dieu. C'est ça qui me dérange. Pour quelqu'un qui est habitué à l'analyse, pour quelqu'un qui est habitué au raisonnement, la contemplation, la connaissance de Dieu exige un type tout à fait nouveau. De connaissance. Une connaissance parfaite. C'est ça la connaissance contemplative. C'est une connaissance parfaite. C'est une connaissance qui réclame le silence. Qui réclame uniquement d'être attentif à celui qui est présent à moi. Qui me regarde. Qui me connaît, qui m'aime, et qui m'échappe complètement à ma conscience, à mon expérience immédiate, qui est au-delà de tout cela, et donc qui exige de moi une attention toute de finesse du côté de l'intelligence. Attention d'amour pour être comme suspendu à lui, savoir que c'est dans cette attitude-là que je suis le plus proche de lui. Dès que je fais appel à mon autonomie, à mon activité, à mes initiatives, je m'éloigne d'une certaine manière de lui. Je suis moi dans mon activité. Et je risque de m'opposer à lui. La contemplation est un dépassement de toute action, de toute activité, de toute activité réalisatrice, de toute activité même morale. Dans une attitude de réceptivité et d'écoute. D'écoute intérieure. D'être comme immobilisé par lui. absolument ça. Il est en plein milieu. La pureté absolue. Il est absolument ça. Parce qu'il est premier. Premier dans l'ordre de l'être. Et le prendre du premier, c'est justement encore. らさね、いい、そういう結構一個ペンのディパシーのスチェリーという言う、いい、unique、original、dans tout ce qu'il est、ne pas y avoir deux dieux、il aurait bien dû reconnaître、parce que dans l'être premier、la nature et son individualité ne font qu'un, sont dépassés、parce que cette distinction implique certaines potentialités, certaines limites. Ce qui permet de comprendre comment Dieu, dans tout ce qu'il est principe, et un principe qui existe, nous n'existons pas en tant que principe. Nous existons dans notre nature commune avec tous les autres. L'individu, il existe comme prince, dans son indivisibilité. Ça ne peut pas être autrement parce qu'il est premier. Absolument simple. Enfin, la troisième composition que nous pouvons saisir en nous.Position d'ordre métaphysique entre notre essence et notre existence. Et ce sont les trois grandes compositions. Il y en a d'autres. Ce sont les trois grandes compositions que nous pouvons saisir en nous. Cette composition d'essence et d'existence, c'est-à-dire ce fait que notre existence est limitée.Parce qu'elle est reçue, parce que nous avons notre capacité d'exister. C'est-à-dire qu'il y a toujours une limite à notre existence et une capacité de ne pas exister. Ce qui fait comprendre qu'il peut y avoir en nous comme une espèce d'angoisse métaphysique.Que par nous-mêmes nous n'existons pas. Par nous-mêmes nous sommes celui qui reçoit ce qu'il y a de plus intime en lui et ce qu'il y a de plus profond en lui, son existence. C'est une situation très inconfortable pour métaphysique. C'est peut-être pour ça que les hommes rejettent la métaphysique. Parce que la métaphysique explicite leur situation inconfortable.D'être en premier lieu tout un être avant d'être et de définir et complètement dépasser quand il s'agit de Dieu. Tu ne peux pas être saisi par notre manière comme naturelle. Dieu n'est pas dans un genre, il faut dire qu'il échappe à toute notre connaissance quantitative, il échappe complètement. On ne peut pas concevoir ce qu'est Dieu, on ne peut pas définir ce qu'est Dieu. À ce point de vue-là, c'est vrai de dire que si on prétendait avoir un concept de Dieu, ce serait contradictoire. Un concept par mode quantitatif. Si on prétendait définir Dieu, ce serait contradictoire. Il échappe à cette manière particulière que nous avons de saisir par un genre différent spécifique. Dieu n'admet pas la connaissance abstraite. Et c'est peut-être cela. Dieu saisir ce qu'est cette contemplation de Dieu. Dieu n'admet pas la connaissance abstraite. Nous abstrayons tout le temps. Nous abstrayons sans le savoir. Et nous abstrayons en le sachant. Puisque nous passons de la blancheur du mur au blanc et du blanc à la blancheur. Abstrait. Dieu et la déité, ça ne fait que. Dieu est sa propre déité. La déité, c'est ce par quoi Dieu est Dieu. Et bien, c'est Dieu. Pas de connaissance abstraite de Dieu. Dieu est la réalité la plus concrète qui soit. Mais concrète dans l'ordre. Nous identifions constamment le concret. Nous identifions constamment le concret et le matériel. Et le spirituel et l'abstrait. Ce qui est très faux dès qu'on affirme l'existence de l'être premier. On voit que l'être premier chaud qui réclame cette simplicité. Il y a en nous quelque chose qui nous donne naturel vis-à-vis de cette simplicité. C'est pour ça qu'on peut la comprendre. Et c'est pour ça qu'on est séduit par cette lumière absolument. Ce qu'il y a en nous, de parenté avec cela. Nous provenons de cette simplicité. et ça prend vraiment dans mes yeux. Parce que son être, c'est sa vie, c'est son esprit, c'est sa contemplation. Être un grand Dieu en raison d'être de la simplicité absolue de l'être de Dieu. Son esprit et son être, sa contemplation et son être sont dans une simplicité absolue. Et donc, quand je touche dans la contemplation l'être de Dieu, ma contemplation qui est spirituelle, qui relève de mon intelligence, qui relève de mon esprit, à ce réalisme absolu. façon qui est de l'ordre de la représentation pour saisir la réalité telle qu'elle est dans sa signification. Le fantasme ne fait plus partie du contenu de ma connaissance. Le fantasme ne détermine pas ma connaissance.
Analogie.
Les anciens répétaient dire la lumière, c'est l'âme spirituelle. C'est pas ça. Ça veut dire qu'elle est comme propriété. Mais c'est plus que la propriété classique, puisqu'elle est comme un principe. Ce par quoi la couleur est visible, ce par quoi.
Sí.
lumière et vous comprenez l'analogie. Est-ce que l'analogie se comprend à partir du réel, ou c'est le réel qui se comprend à partir de l'analogie? Le sabbat est-il pour l'homme, ou l'homme est-il pour le sabbat? L'analogie se comprend à partir du réel, et non pas le réel à partir de l'analogie. Et donc, j'ai parfaitement le droit de dire que la lumière qui existe est implique un type de connaissance très particulière que je ne peux pas attraper avec mon filet d'analogie propre, d'analogie métaphysique propre. C'est un filet. C'est pour connaître le réel. Quand ça va, c'est très bien, c'est merveilleux. Accepter que la réalité est plus riche que le contenu de vos connaissances. Le jour où vous acceptez ça, vous dépassez le positivisme. Tant que vous ne l'avez pas accepté, vous êtes positiviste. C'est dur de dépasser le positivisme. Non, c'est dur. C'est de reconnaître que l'analogie est au service de la connaissance humaine. L'important, c'est de connaître le réel. C'est de connaître qu'il y a dans l'homme de la lumière. Il y a de la lumière. Et il y a dans mon physique de la lumière. Je suis à la fois illuminé et je suis source de lumière. C'est vrai. Est illuminé. Physiquement, notre corps est illuminé. Nous sommes source de lumière par nos yeux. Nous sommes source de lumière par notre intelligence. Nous sommes source de lumière. Alors, on essaie d'exprimer ça. C'est très difficile. A-t-elle une signification? Laquelle présentement est la signification? Ce qu'est la lumière? Et j'essayais de dire en quelque sorte ce qu'est la lumière. Ça, la lumière implique une manifestation. Et plus qu'une manifestation, c'est ce par quoi une chose se manifeste. Vous voyez, au fond, je crois que la philosophie heideggerienne n'est pas au niveau de l'être, au niveau de la lumière. Et tout ce que dit Heidegger sur l'être est vrai de la lumière. Aller d'ailleurs, c'est-à-dire dévoiler. La lumière dévoile. Ça, c'est sûr que la lumière dévoile. Vous voyez, il fait noir, puis un rayon de lumière, ça dévoile. Et donc, découvrez le petit crapaud qui est là. Alors qu'autrement, vous le voyez. Donc la lumière dévoile tout. Tandis que l'obscurité voile, cache. Mais, alors, je crois que dévoiler et voiler, l'obscurité et la lumière. On voit très bien les deux. C'est pas l'être. L'être est par lui-même intelligible. Tandis que les ténèbres ont besoin d'être dévoilées. Mais je disais souvent que la philosophie d'Heidegger, c'est au niveau de la qualité. Je crois qu'il faudrait dire que c'est au niveau de la lumière. Et ça ferait mieux comprendre comment cette philosophie est si séduisante. Terriblement séduisante, d'ailleurs, et très séduisante. Et elle a dit, c'est difficile d'en sortir à cause de ça. Pourquoi utiliser le mot contemplation, qui en français implique premièrement un effort subjectif pour atteindre Dieu, alors que c'est exactement le contraire? Il s'agit surtout de recevoir le mot contemplation. Est-ce que c'est subjectif? Moi, c'est dans les théories, hein, si vous êtes mieux, je veux théorie en grec. Théorie. Quand je parle de contemplation, non, c'est la théorie. Mais la contemplation des belles, c'est que je parle de la théorie en contre la contemplation. Je ne vois pas quel est l'autre mot qu'on pourrait mettre pour traduire théorie. s'il n'y avait pas ça, je ne pourrais pas, ce serait un étranger. Or, il transcende, mais ce n'est pas étranger, puisqu'il est plus présent en moi, je suis présent en moi. Ça, c'est les conditions qui vont dans le monde où il y aura cette attitude d'art. Le contemplatif, c'est celui qui est d'art, qui est en attitude d'art. Tout est suspendu à ça. Tout est suspendu à ce regard intérieur. Cette adhésion, vous voulez dire, est totalement engagée. C'est plus un du spectateur. Il est totalement engagé, il est totalement pris, totalement saisi. C'est pour ça que quand on commence à parler des attributs de Dieu, il faut tout de suite comprendre qu'on fait ces attributs. Nous pouvons vraiment les comprendre. Si on a précisé que cet être premier était notre créateur. Et donc que c'était lui qui était la source de notre vie. Et que nous dépendons radicalement. Alors, à ce moment-là, nous pouvons comprendre que ce créateur, il est absolument saint. Il échappe à toute connaissance abstraite. Je ne peux pas le ramener à l'idée impossible. Ce créateur, c'est d'être premier. Absolument simple et parfait. D'habitude, il y a une antinomie entre la simplicité et la perfection. Et je suis obligé d'opter pour la simplicité ou pour la perfection. Lorsqu'il s'agit de l'être premier, quand il s'agit de Dieu, sa simplicité, c'est sa perfection. En lui se trouve d'une manière éminente. Et dans une simplicité absolue, tout ce qui pour moi est qualité et noblesse dans notre être. Ça ne veut pas dire que Dieu est la synthèse de toutes les perfections. Non, Dieu est au-delà de la synthèse, puisqu'il est absolument saint. Dieu n'est pas un être synthétique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la philosophie c'est une synthèse. La philosophie est ordonnée à la contemplation. Donc elle est ordonnée à ce dépassement, à cet éclatement. Parce que toute ma philosophie est pour cette contemplation. Et elle s'achève dans cette attitude extatique, c'est vrai, qui consiste à tout entier tourné vers celui qui est Dieu. Cet être absolument simple et d'une perfection absolue. Il est bon et souverain. Je crois qu'il faut être attentif ici à la manière dont saint Thomas qualifie l'éminence de chacune de ses manières d'exister. Il dira totalitaire silence, tout à fait saint. Il est perfectissime, tout à fait parfait. Il est summum bonum. Il est d'une bonté souveraine. Il sait Dieu là dans sa bonté. Quelle bonté souveraine. La bonté demande d'être Seigneur là. C'est très bien. La bonté demande de ne pas avoir de limite. Un être bon, c'est un être qui est bon, qui attire. C'est tout à fait autre chose que la perfection. Un être parfait, c'est celui à qui il ne manque rien. Alors il peut y avoir, en Dieu ça n'existe pas parce que la perfection de Dieu s'identifie à sa bonté. Mais pourquoi il peut y avoir des êtres parfaits qui sont un peu rigides. Ils sont parfaits, vous ne les trouverez jamais dans l'attitude de l'humilité. Ils sont impeccables. Il y a des tenues comme ça parfaites. Très très bien. La bonté. Quand vous êtes auprès d'un être bon, vous redécouvrez la cité d'attraction.